Ça, ouais, mais ouais. Pourtant, quand on se parlait dans ce temps-là, tu me parlais pas que c'est que tu voulais faire ce métier-là, que tu voulais pas être pilote de ligne. Tu me parlais pas de ça. On dirait que c'est comme tu étais là en 2010, tu faisais tes affaires, petit train qui va loin, puis finalement, ben, 10 ans plus tard, tu as réussi à atteindre l'objectif.
C'est ça. Ouais, ben c'est vrai. J'en parlais pas. Écoute, je sais pas pourquoi je travaillais dans le domaine. C'était à ce moment-là, j'étais vraiment très occupé avec la job que j'avais finalement.
T'es plus gestionnaire.
J'étais en gestion. Là, ouais, fait que là, j'étais vraiment occupé à gérer une petite entreprise.
Ouais.
Puis, comme on dit en anglais, in the back of my mind, j'avais dans ma tête, fallait que je continue ma formation.
Et ouais.
J'ai poursuivi. Mais j'avoue que quand on a fait ce projet-là ensemble, j'étais pas en formation. Là. J'étais purement gestionnaire.
Tu vois, moi, j'ai sorti de Pro Aviation, c'était en 2006. Fait que, tabarouette, le temps passe tellement.
Mais oui, toi, t'avais fait une partie. T'avais-tu fini ton
j'avais
privé?
J'avais fait mon privé. Ouais. Puis je l'ai fini, je pense, une journée avant qu'il dégage. Là.
Ouais, ça a fermé drôlement, ça.
C'est fini, c'est faillite. Un peu comme Capital Hélicoptère actuellement avec Groupe UOT qui. A laissé des pilotes d'hélicoptères en plan, des pilotes d'hélicoptères en formation, des gars de l'Europe qui sont descendus ici. Puis j'avais déjà abordé cette discussion-là avec toi il y a de ça quelques années. Je ne comprenais pas pourquoi on avait autant de Français au Québec qui venaient suivre des formations de pilotes, que ce soit pour l'avion ou encore l'hélicoptère. Puis tu m'avais dit, Yann, c'est parce que c'est beaucoup moins cher ici que là-bas.
Oui.
Puis c'est la raison pour laquelle on a autant de formateurs qui étaient français, puis autant d'élèves. Mais ces gars-là, ils ne reverront jamais une scène de l'argent qu'ils avaient investi pour Capital Hélicoptère. Pour certains, il y en a qui ont réussi à continuer leur formation parce que c'était des gens qui avaient déjà un peu de moyens. Là. Mais quelle histoire triste. Moi, j'ai failli ne pas être capable de finir mes cours privés. Puis c'était quand même... Tu sais, toi, tu as payé quoi, 50 000 pour ton commercial à peu
plus
près?
Que ça. Plus que ça. En bout de ligne, ça monte à peut-être plus
70-80 000
environ.
70-80 000. Puis moi, à ce moment-là, en 2006, j'avais 10 000 $ d'investi sur ma formation. Fait que ça ne me tentait pas de perdre ça. Là. Je trouvais ça très ordinaire. Puis j'ai réussi à passer au travers. Est-ce que toi, tu rêvais d'être pilote depuis que tu étais tout jeune?
Oui. Moi, depuis que j'avais 12-13 ans, écoute, je regardais ça. J'allais à l'aéroport. J'habitais pas loin de l'aéroport à l'ancienne Lorette. Je prenais mon petit bicycle à pédale, puis je montais à l'aéroport. J'allais voir les avions. Ça a été toujours une passion pour moi, là, mais ça a vraiment débouché aux alentours. Aux alentours de 12-13 ans, je dirais vraiment, là, parce que là, j'ai vraiment pogné une passion.
Ouais.
Puis là, fallait que... Là, c'est Flight Simulator. Après, j'ai embarqué là-dedans. Très jeune âge, là, 14 ans, là, mon premier ordinateur, un Pentium 166, là, une affaire hyper de base avec un Flight Sim for Windows 95. Puis
tu volais pendant des heures.
Puis là, mon frère il me regardait. D'ailleurs, tu connais mon frère, on le salue.
C'est lequel? Là,
le plus vieux. Ben, tu connais mieux le plus vieux.
J'ai travaillé longtemps avec Tommy.
Ben, c'est ça. Tu connais Tom plus que le plus jeune.
Exact.
Mais Tom, il me regardait à cette époque-là. L'autre était trop jeune. Mais Tom, il me disait, voyons, tu fais là. T'es assis devant l'ordi.
Pendant des heures.
T'es assis là. Tu cliques. Tu regardes quoi, là, l'avion? Ça t'entend.
Toi, tu le regardais, puis tu dis, je vole dans le ciel.
Ben oui, les nuages sont carrés, c'est des blocs blancs, là, tu sais. La technologie n'était pas très évoluée, mettons.
Ouais, fait que t'as appris là-dessus. Moi, c'est ce qui m'a amené vers l'aviation. C'était vraiment le film Top Gun 1984. Là.
Ah, pour vrai?
Ah, vraiment.
Fait que c'était les filles, puis le cash.
Puis la moto.
C'est ça.
Je voulais vraiment faire ça de ma vie, finalement. Ben, tu sais, l'armée, ça me tentait pas nécessairement. J'ai essayé les cadets, puis à un moment donné, ils ont commencé à me faire de la drill, là.
Ouais.
Puis ça marchait pas. Fait que j'ai oublié l'armée de l'air, puis j'ai passé rapidement à d'autres choses parce que mon premier rêve, moi, c'était de faire de la radio. J'écoutais le monsieur Moustachu dans les années 80, André Arthur, puis il était tout le temps dans mes oreilles. Mon grand-père, il était dans mes oreilles. Quand j'allais au hockey, il était dans mes oreilles parce que la personne qui me faisait des lifts écoutait toujours André Arthur. Il était dans l'autobus scolaire, André Arthur, parce que le chauffeur d'autobus écoutait André Arthur. Puis je me suis dit, ben un jour, j'aimerais faire le même métier que lui. Puis, ben c'est ça. Ça, c'était mon premier rêve. Après ça, ben c'était d'être pilote d'avion. Puis, tu sais quoi, tu sais, dans les deux domaines, je trouve que c'est des domaines qui sont des métiers de passionnés.
Ah oui.
Tu sais, c'est pas facile. Toi, t'as des horaires qui sont, tu sais, assez bizarres, là.
Oui.
Des... deux semaines in, une semaine out, deux semaines in, deux semaines out. Là,
oh,
ce que tu m'avais envoyé.
Quatre jours. Oh, ouais, je t'ai envoyé mon horaire. Parce qu'il faut comprendre, pour que les auditeurs comprennent, Yann, il me demande, ben là, tu peux-tu venir demain? Puis ça, c'était la semaine passée. Ben là, je dis non, demain, je peux pas. L'autre jour, je pouvais pas non plus. J'ai décidé de t'envoyer l'horaire. C'était plus simple demain. Prends mon horaire puis trouve un trou.
Exact. Finalement, ben j'écoutais mes podcasts hier. J'étais pogné. Je me disais, ah, il est à Québec.
Ben oui.
Fait que je vais y envoyer un message. Finalement, on a réussi à se rencontrer. Là, actuellement, toi, les avions avec lesquels tu as débuté, moi, j'avais pas débuté avec le Cessna.
Toi, tu avais débuté, Pro Aviation avec le Katana.
Les fameux Katana, les ailes en bas, la petite bulle au-dessus, qui ressemblait à un F-18 dans ma tête.
Ah, t'avais un joystick, là. Ça roulait bien, là, ces avions.
La seule affaire qui me gossait, c'est que, puis je sais pas si c'était comme ça dans les Cessna, là, mais ce qui me gossait, c'était toujours sentir la cuisse de mon entraîneur sur ma cuisse droite. Là.
Yannick.
Ça me fatiguait. Là. Je trouvais qu'on était trop proches, mais bref, c'était un super de bon entraîneur, puis on a réussi à passer au travers. Toi, tu as commencé avec les Cessna?
Oui. Moi, j'ai commencé sur le 152. 150, 152, ça c'est comme le plus petit Cessna. Là.
Ouais.
Deux places côte à côte, là, cuisse collée, faut pas être trop farouche. toi, clairement, là, t'avais le petit côté farouche.
Mais 150, 152, là, ça c'est l'avion qui a des pays de cul où tu vois le jour au travers des portes. Là.
Ouais, mettons.
Mais il y en a qui se promènent encore avec ça. Ça date des années 40, 50. Puis
ouais.
Ils virent encore ça, puis ils ont encore confiance à cette mécanique-là.
Ouais, c'est fou, les vieux moteurs Lycoming qu'il y a là-dedans, je veux dire, c'est comme un peu down power, là, dans un sens où ce que la puissance du moteur, c'est un moteur qui serait capable d'en prendre beaucoup plus, mais l'aviation est toujours étant plus sécuritaire que sécuritaire, ben, ces moteurs-là, fait que c'est pour ça que ça ne s'use pas, puis la maintenance aussi qui se fait là-dessus, c'est incroyable. Là. Toujours les avions certifiés comme ça, il faut toujours... Les maintenances annuelles et tout ça. Fait que les avions sont en état. Là. L'année d'un avion n'a pas vraiment d'importance quand tu penses à ça. Non, c'est vraiment toute la shape du fuselage. Puis le pire pour un fuselage dans ces petits avions légers-là, ben c'est la rouille. Là. Fait que ça, c'est à vérifier tout le temps. Mais quand ils font des inspections annuelles, ils vérifient ça. Puis, moi, ça ne m'a jamais énervé.
C'est ça. Mais quand tu fais parce que toi, tu es pilote de ligne, là. Tu travailles là-dedans depuis plusieurs années, c'est encore toi qui fais l'inspection de ton avion avant chaque vol?
Oui. Oui, ça reste encore ça. Moi, ben d'ailleurs, l'autre fois, j'étais à San Francisco, je t'ai envoyé une photo.
Exact.
Tu m'as envoyé chier.
Oui, Chris, la météo. Mais quoi que la météo, je pense qu'on avait un degré de plus que vous autres.
Genre, c'est pour ça, j'ai dit, tu sais, Yann, je me gèle le cul.
San Francisco. Dis,
va chier. Mais je faisais le tour de l'avion.
Ouais.
J'étais en train de faire mon walk-around autour de l'avion, notre inspection pré-vol. Fait que je fais le tour de l'avion, mais là, plus que ça avance, plus que le tour est long à faire.
Okay.
L'avion est grosse.
Oui, exact.
Tu sais, quand je fais un aile, passe en arrière, okay. C'est une longue ride.
Là, tu me le dis, je te pose des questions que tu peux pas répondre. Là. Tu me dis, Yann, j'ai pas le droit de répondre à ça. Là. Mais en même temps, tu es assez honnête. Là. Est-ce que tu as déjà découvert quelque chose sur ton avion que les gars n'avaient pas découvert avant?
Oui, un bouchon de fuel. Un bouchon de fuel sur un jet régional, loin.
OK.
Fait que le gars du fuel est venu fueler, puis il a pas fermé le bouchon.
Ish.
Ouais. C'est ça. C'est supposé te dire avec la pression
ça
de l'air.
Tu sais,
un aile, là, je veux dire, pour quelqu'un, là, pour comprendre la physique d'un aile, là, un aile, c'est comme une mini-dépression qui se crée, ce qui fait la portance de l'avion. Je ne rentrerai pas dans les principes physiques détaillés, là, mais ça veut dire que tout le fuel sort.
Ouais.
Aussitôt que tu roules, aussitôt que tu es sur la course au décollage.
Ça, quand tu vois ça, tu fais-tu un rapport à l'entreprise?
Oui. Tu le fermes?
Oui, c'est ça. C'est ça.
Tu commences par le fermer.
Ouais.
Après ça, on va évaluer la situation.
Mais tu sais, ça, c'était pas mettons, les gros avions dans lesquels on prend pour aller aux États-Unis ou en France. C'était un petit avion. Là.
Ben, c'est un jet régional. Là, je veux dire, c'est très, très rare que ça arrive, mais c'est pour ça qu'on fait une inspection pré-vol avant tous les vols. Il n'y a pas d'inquiétude à y avoir. Là,
Parce que, vous êtes pilote d'avion, vous avez certaines connaissances, mais je me dis, les grosses connaissances en aéronautique, les mécaniciens et tout ça sont capables de faire ça, ce genre de tournée-là de l'avion pour voir si tout était correct. T'sais. Pourquoi le pilote a besoin de descendre puis faire le tour? T'sais, tu viens de me prouver pourquoi, parce que des fois, il y a des oublis. Puis des fois, par habitude, hein, les gars, l'impression que tu travailles à la chaîne. Oui, tu travailles à la chaîne, mais c'est parce que tu as la vie de gens en jeu.
Oui. Mais tu sais, moi, je me dis, ultimement, là, mettons, je reviens sur mon histoire de bouchon de carburant, là, ben, ultimement, ça. mettons, on serait parti avec ça, là, par exemple. On décolle avec ça, le fuel se vide, premièrement, on le voit rapidement, là, puis il y a du fuel dans l'autre aile, il n'y a pas de panique. Là. Ouais. C'est correct, on va faire un rond, mais on va tourner en rond, mais on va revenir rapidement. Là. On va préparer notre approche, puis c'est tout. Là. Fait que, tu sais, ultimement, c'est ça. Sur les gros porteurs qui font... moi, je fais du transatlantique sur un moyen porteur, mais les gros porteurs qui font du... Mettons l'Asie et tout ça. Là. Je te parle des white body qu'on appelle dans notre langage, comme des 787, des 777, ouais. Ces appareils-là. Ben, eux, l'inspection se fait vraiment par des mécaniciens.
Okay.
Les pilotes ne sortent plus. Là.
OK, je comprends.
Ouais. Puis quand je fais du transatlantique, même avec mon moyen courrier, j'ai un mécano qui va faire le tour de l'avion.
OK.
Ouais.
J'ai comme 1 million de questions à te poser, Jérémy. Là.
Mais là, vas-y dans l'ordre chronologique.
On a juste comme 50 minutes. Là. Quand tu as fini ton cours privé, toi, tu avais comme objectif de prendre ton commercial. Parce que, tu sais, ce podcast-là va servir aux gens qui trippent sur l'aviation, mais il va servir aux gens qui sont intéressés par l'aviation puis qui voudraient peut-être en faire aussi leur métier. Tu as pris ton cours privé, après ça, t'en mets ton commercial. C'est quoi les avions que tu as commencé à piloter?
Ben, j'ai commencé sur... mettons, j'oublie les avions d'entraînement. Là, Cessna 152, 172.
Ouais.
Ben, je les oublie pas, je viens de les nommer. Fait que, too bad.
Le Beechcraft?
Ouais. Après ça, j'ai passé sur un Pilatus PC-12.
OK.
PC-12, on connaît bien Chrono à Québec.
Ouais.
Chrono Aviation en nom. Après ça, après le PC-12, j'ai été sur du King Air, Beechcraft King Air 100. Tu te souviens quand on a fait notre vidéo?
Oui,
c'était ça l'avion.
OK. Ben non, mais quand on a fait la vidéo, c'était une entreprise de Québec qui avait un avion privé.
Ouais, on avait comme fait On avait comme fait une petite passe au montage.
Ah
là.
Oui, OK. On fait de la magie.
Ouais, c'est ouais. Ça. Mais tu sais, ça ressemblait à ça. C'est à cause qu'on parle de différents modèles de King Air. Dans le fond, c'était pas grand-chose. C'est que là, l'avion était là. Fait que ça allait très bien de le faire avec ce King Air-là, qui est un King Air un petit peu plus gros.
Ouais.
Mais moi, je voulais le King Air 100. En fait, c'est pas plus gros. Là, c'est vraiment juste les différences. C'est les moteurs. Puis un petit peu de longueur de fuselage. Donc, il y a eu ça. Après ça, j'ai passé sur Metroliner. Ça, c'est un avion qui date des années 60. Un avion très touché, là, qui a eu beaucoup de problèmes dans le passé. Là, mais moi, j'ai bien aimé cet avion-là. Puis je faisais du cargo avec ça dans l'Ouest canadien.
OK.
Fait que là, je partais... c'était vraiment du lundi au vendredi. On partait avec des paquets de FedEx. C'était pas compliqué. Là, c'était un sous-contractant de FedEx. Puis on livrait du cargo dans, disons, les points majeurs des Rocheuses puis mm-hmm. des prairies, si tu veux. Fait qu'on faisait Saskatoon, Regina, Winnipeg, Kamloops, Kelowna, Vancouver.
T'as-tu trippé faire ça?
Ah, j'adorais ça.
Ouais.
Ah, voler dans les Rocheuses, même, c'était capoté, là. C'était vraiment le fun. Un avion compliqué, là, un avion complexe, puis de très vieille technologie, là, donc les radars ouais. Météo sont pas évolués, puis c'est comme... C'est de l'aviation, pas d'autopilote, c'est de l'aviation de brousse. Là.
On ressent un peu la même affaire quand on fait de la plongée sous-marine. On a l'impression d'être privilégié de vivre ce moment-là. Tu sais, quand tu te promènes au travers des montagnes ou quand tu te promènes dans l'océan puis tu vois des affaires, tu te dis « tabarouette ». La majorité des gens que je côtoie chaque jour n'auront jamais la chance de voir ce que moi je suis en train de voir, de vivre ce moment-là. Tu es dans le cockpit ou encore quand tu es dans le fond de l'eau, tu es tout seul. Tu es tout seul au monde puis tu te concentres sur tes instruments. Puis tu dis, voyons donc, je suis donc bien chanceux. T'sais.
Puis on s'en rend plus compte. Puis j'ai une anecdote par rapport à ça, parce que ça me fait penser la dernière fois, là, environ 2 mois de ça, j'étais à Halifax, puis il y avait, quand l'avion est plein, les employés, ben on sait que les employés, on peut embarquer sur nos vols. Là, ouais. On embarque comme en arrière quand il y a des places de disponibles.
Mm-hmm.
Donc il y avait une agente de comptoir qui avait plus de place en arrière, donc elle est venue s'asseoir dans le strapontin, qu'on appelle, là, ouais. Le jump seat, là, donc elle est assise entre les deux pilotes, mais dans le cockpit, donc elle a la vision vraiment du cockpit. Là. Fait que ça, c'est pour quelqu'un qui n'a jamais vu ça, c'est quand même assez impressionnant.
Mm-hmm.
Mais nous autres, on y pense plus à ça. Là. On fait nos checks, bing, 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 on part, on décolle.
Quand je te parlais de travailler à la chaîne, là,
c'est ça. Ben oui, mais on vient comme des robots. Là. Ouais. C'est toutes des phrases pré-canées, ce qu'on appelle les procédures d'opération normalisées. Là. C'est toutes des phrases, il n'y a pas de... mettons, du moment que les moteurs partent jusqu'au décollage puis à la montée initiale, il n'y a pas de jasette là, comme on est en train de faire là. Là. C'est juste des phrases canées qui sont écrites dans un livre qu'on doit réciter tout le temps. Là, dans le sens que on fait toutes nos procédures, nos checks, avec des phrases, puis l'autre, il répond, ou toi, tu calls, puis c'est vraiment toute une espèce de symphonie, si tu veux. Ouais. Fait qu'on décolle, puis la fille est assise en arrière entre nous deux. Puis aussitôt qu'on décolle, on avait des petites couches de cumulus, là, des petits nuages bonbons, là, bien cute, là. Puis là, on rentre là-dedans, mais là, moi, je vole un 737. Un 737, ça vole assez vite, là, mm-hmm. comme tous les avions de ligne. Là. Mais on décolle, puis on rentre des nuages, sort d'un nuage, rentre dans l'autre, sort de... T'sais. La fille, elle dit, j'ai l'impression d'être dans un cartoon. Elle avait jamais vu ça, là, t'sais, la vitesse, l'effet de vitesse, la voix quand tu traverses des nuages, puis encore plus quand tu es assis en avant. Ouais. Fait qu'elle trouvait ça bien impressionnant, c'est pour ça... Je faisais un parallèle avec ça.
Ça te rappelait ça.
Ben oui, parce que tu disais, tu sais, dans ta plongée, là, tu dis tu te sens privilégié de voir des événements de même, ou pas des événements, mais des scènes comme ça que tu vois. Ben moi, c'est la même chose là, en vol. C'est juste que là, elle m'a comme fait « Oh, griff! »
Prends des photos dans ta tête.
Ouais, prends des photos, là, réapprécie encore, parce que des fois, là, c'est routinier, là, veux pas, là, c'est comme n'importe quoi.
Ben oui, tu sais, puis je parlais avec un ancien joueur de hockey... Qui est maintenant en bourse. Il travaille, il fait de la bourse à tous les jours. C'est un day trader, c'est Gaétan Royer. Oui. Puis il a joué quelques matchs dans la NHL. Puis je dis, tu te souviens-tu quand tu embarquais sur la glace puis il y avait des milliers d'amateurs qui vous acclamaient? Puis il s'en souvient, mais il n'y a plus d'image très précise. Il n'y a plus d'image de jeunes partisans qui regardent Gaétan en disant « Wow, un joueur de hockey de la NHL ». Puis c'est souvent ça que les gars regrettent parce que pendant qu'ils sont dans la NHL, ils ne réalisent pas la chance qu'ils ont de vivre ça. Eux autres, c'est des athlètes, c'est leur travail. Ils travaillent à la chaîne. Ils s'entraînent tout le temps pour livrer le meilleur de leur performance sur la glace. Mais ce qui est vraiment trippant, c'est les gens qui t'acclament. Ce qui est vraiment trippant, c'est les jeunes qui te regardent, t'es leur modèle. Fait que ce qu'il me racontait, il était assis à ta place, là, il me disait, tu sais, Yann, si on a un message à passer ensemble, toi et moi, là, c'est de vivre le moment présent quand il y a quelque chose qui nous arrive. Puis en plongée sous-marine, moi, je me fais un point d'honneur à chaque fois que je plonge dans le sud ou que je plonge dans le fleuve Saint-Laurent ou que je chose escoumin ici dans l'eau qui me fait durcir les couilles comme j'ai jamais eu les couilles dures. Je me dis tout le temps, je suis privilégié. T'sais, chaque jour que je vis ces affaires-là, que je suis capable de faire ma passion, je suis privilégié. Fait que, t'sais, c'est important, t'sais, tout comme toi dans ton métier, qu'on se souvienne de ça.
Ben oui, puis je pense que c'est important, en fait. Ouais. C'est une leçon de vie, là, excusez notre philosophie après-midi, là, mais c'est ça pareil dans n'importe quoi, là, essayer d'apprécier qu'est-ce que tu as, qu'est-ce que tu fais.
Mais quand on le fait, on s'en rend pas compte.
Mais non, c'est l'être humain, il m'a le fait.
Ben, on est fucké, on est condamné à l'extinction. Quand t'es sorti, bon, ton pilote privé, ton cours de pilote privé, c'est 50 heures. Par la suite, ton commercial est à 200 heures, je sais pas si ça a changé.
Ouais, c'est ça, 200.
Mais le commercial est à 200 heures. Il y a énormément de pilotes, moi, que j'ai rencontrés qui me disent entre le 200 et le 800, c'est long sur un méchant temps. Mm. Toi, tu as fait comment pour monter tes heures?
J'ai volé. J'ai eu des bonnes opportunités, des bonnes connexions. J'avais des. Tu sais, c'est à cause. Il faut comprendre que, oui, j'ai fait premièrement mon privé aux alentours de 2007, si je ne me trompe pas. Puis après ça, commercial, comme je disais, mettons autour de 2013. Donc, de 2007 à 2013, j'ai travaillé dans l'aviation pareil. Là, j'étais dispatch. J'ai fait. Moi, j'ai commencé avec le cours ici à Charlebourg. Là, donc, tu connais le centre d'information de transport de Charlebourg.
T'étais-tu avec Charles-Éric Lamarche?
Oui, je connais très bien Charles-Éric.
Ouais.
Puis, j'ai fait ce cours-là. C'est de même que j'ai débuté. Là. Fait que, en faisant ça, je me suis fait beaucoup de connexions pendant plusieurs années dans le domaine. Fait que quand j'ai commencé à avoir une vraie licence de pilote dans les poches, je prenais le téléphone puis je connaissais beaucoup de monde. Ça m'a aidé à trouver des premières jobs parce que c'est ça qui est le plus difficile.
Vraiment.
T'sais, pour quelqu'un qui veut commencer, là, mon conseil, c'est trouve-toi une première job au plus sacrant parce que c'est ce qu'il y a de plus tôt.
Et t'sais, les écoles de parachute, là, à un moment donné, eux autres, ils ont besoin de pilotes. Mais là, ils sont comme 150 qui veulent travailler à cette école de pilotage-là. Fait que l'école de parachute te dit « Ben oui, je peux t'embaucher, mais je te paye pas. »
Ben oui.
Mais pourquoi tu me payes pas? Ben toi, tu vas monter tes heures.
Mais ça, c'était dans
mon temps.
Ouais. Puis moi, dans le temps aussi, quand j'étais dispatch, j'étais. C'était ça aussi. Fait que c'est pour ça que j'ai été dispatch, parce que j'étais là. Il n'y a pas de job là-dedans.
Ouais.
Il n'y a pas de job. Mais dans le fond, moi, je voulais toujours devenir pilote, mais il n'y avait pas d'ouvrage. C'était pas des bonnes années.
Ouais.
Il y a eu 2001 qui a tout scrappé,
ouais.
11 septembre. Puis après, il y a eu 2008, crash économique, tout scrappé aussi. Fait que c'était vraiment pas des bonnes années pour l'aviation. Fait que oui, il y avait du monde qui. C'est comme un travail gratis. Mais c'est l'aviation, c'est un peu ça. Il y a des parallèles à faire avec la radio, by the way, là,
ouais.
Quand même. Là. Quand tu penses à ça, là, pour que le monde qui commence en radio, Je sais que tu m'en as déjà parlé, puis c'est pas facile au début.
Moi, j'ai jamais travaillé gratis. Quand je parle à mes étudiants au Collège Radio-Télévision de Québec pour leur dire que j'ai dormi dans mon char pour pouvoir travailler en bosse, là, à 11$ de l'heure, Jérémy, en 2006, ils me croient pas. Mais pourtant, je l'ai fait. T'sais, je travaillais dans la restauration. Je partais, mettons, le resto fermait à minuit, 1h. Je partais à 1h30, 2h du matin. Je m'en allais à Saint-Georges-de-Beauce. J'allais me coucher dans le stationnement de la station de radio. Puis à 6h moins quart, j'avais Marie-Christine qui cognait à ma fenêtre. « Yann, on rentre en onde dans 15 minutes. » Puis là, ben, je me réveillais, j'allais faire mon petit café. Je prenais mon journal, parce que dans le temps, on avait un journal de Québec. On commençait le show. C'était un show musical, fait que ça me sauvait un peu. Mais j'étais payé 11$ pour les heures que j'étais en onde.
Ah oui.
C'était 3 heures.
Ta préparation n'est pas là, là.
Elle n'est pas là. Fait que 6h à 9h. Mais oui, j'en avais pas de préparation. Je n'ai jamais eu. De 6h à 9h.
Le chat sort du sac.
C'était. Ça me donnait 33$. Puis je partais de Québec, là.
Ouais, ben c'est ça que je t'ai dit, là. Quand je disais travailler gratuitement, c'est pas mal ça, là.
C'est ça.
Tu sais, moi, même quand moi, il y avait plus d'ouvrages, mettons, dans les années 2010, par exemple, là, 2014-2015, ouais. Quand j'ai commencé à flyer plus intensément là, au niveau commercial.
Ouais.
Écoute, première job, là, juste pilote, je pense que j'avais 22 000 par année. Là. 22, là.
T'es avec les responsabilités que vous avez.
Ouais.
C'est du vol.
Ah oui. Après ça, quand je suis tombé commandant, avec commandant, là, sur un avion de 13 000 livres quand même. Là. Mm-hmm. C'est comme c'était à peine 40. Fait que good luck. Là. Aujourd'hui, c'est mieux, ça va vite là, au moins. Tu peux rentrer chez Jazz comme, mettons, rapidement là, aujourd'hui. Okay. 8-900 heures, tu peux rentrer chez Jazz.
8-900 heures. Mais il faut que tu passes quand même de 200 heures à 8-900 heures. Fait qu'il faut que tu fasses les étapes. Il faut que tu saches te créer des contacts. Quand tu rentres, exemple, chez Jazz, là, est-ce que pour l'avion, tu as une formation qui t'est offerte ou faut déjà que tu aies ta formation sur cet appareil-là avant de rentrer pour l'entreprise?
Non, ils te forment. Parce que les avions complexes comme ça, ben, en fait, à partir du moment que tu sors de l'école de pilotage, peu importe les avions que tu vas voler, que ce soit un King Air ou un CRJ ou un Dash 8, tu vas avoir une formation sur l'appareil qui va durer, comme chez Jazz ou chez les compagnies majeures, là, que ce soit Transat, Jazz, WestJet, Air Canada, tu vas toujours avoir une formation qui va durer environ 2 à 3 mois.
OK. 2-3 mois quand même.
Oui, ouais, ouais. 2-3 mois de formation où ce que tu vas avoir un mois de pré-simulateur, un genre de simulateur en... Moi, je l'appelle un simulateur en carton. Là, ouais. Mais ça, en réalité, c'est comme des écrans, là, mais il n'y a rien qui bouge. Là.
OK.
C'est pas tant le fun. Là.
Non.
Tu fais juste peser, puis là, c'est touchscreen. Là, donc,
ouais.
Tu pèses sur l'écran, puis là, ça touche au switch, puis là, on pratique nos flows qu'on appelle. On pratique nos procédures normalisées.
Okay.
Fait que mais là, c'est ça. Fait que là, tu fais ça, puis dès que tu sors de là, tu fais, mettons, 4 heures de ça. Quand tu sors, puis tu t'en vas à l'hôtel, mais ben là, t'étudies. Le lendemain, tu vas pratiquer d'autres affaires. Puis après ça, t'étudies. Un coup que tu as fait ça, là, ils te trouvent assez bon. Là, tu as passé le premier test. Ouais. Tu vas avoir un test à la fin de tout ça. Là, ils vont t'envoyer au simulateur parce qu'ils veulent pas dépenser de l'argent au simulateur si tu n'es pas prêt à y aller parce que le sim, ça coûte cher en tabarouette.
Ouais.
Les gros sims, là, full motion, là. Fait que ils veulent être sûrs que t'es prêt. Fait que là, quand on rentre dans le sim, ben là, ça commence à ressembler à l'avion pas mal. En fait, c'est exactement pareil comme l'avion. Sauf que là, c'est du sim, puis là, on pratique les pannes, puis tout ça.
OK. Puis ces pratiques-là, ça compte-tu comme des heures de vol aussi?
Non.
Pour les simulateurs, non?
Non.
Hey, j'avais essayé le simulateur à Maison du Capitaine, au Vieux-Port de Québec. Parce que le fleuve Saint-Laurent est assez particulier là, par la façon dont il s'est formé.
Ouais.
Ça prend des capitaines du Saint-Laurent, donc des pilotes du Saint-Laurent. Puis la maison du capitaine, je pense que ça s'appelait comme ça, là, eux, ils forment les pilotes du Saint-Laurent. Puis j'avais embarqué dans le simulateur. Il y avait comme 3 simulateurs. Le premier était le gros paquebot. Puis après ça, les 2 à côté, t'es comme soit le remorqueur ou soit celui qui s'occupe du changement de pilote. Hey, c'est capotant, sacrifice. Là.
Ouais.
T'es dans le gros paquebot en haut, puis tu vois le petit bateau qui est en bas. Tu changes de pièce, puis là, t'es dans le petit bateau en bas, puis tu vois le gros bateau en haut. C'est le fun à vivre. Puis j'imagine que t'as commencé à triper en maudit quand t'étais accepté pour ce type de formation-là.
Ah oh, oui, la première, c'est super le fun. À longue, ça vient un peu... c'est demandant.
Ouais.
C'est pour ça que les pilotes les plus seniors, là, eux, ils vont... Tu sais, ils vont comme slacker un peu, là, changer d'appareil pour le fun. Tu sais, dire, même moi, là, rendu à. J'approche la quarantaine, je suis comme. Tu sais, là, je vise pas la. Je vais y aller sur un gros, là, très gros. Là. Je vais aller m'amuser pendant 2-3 ans.
Ouais.
Mais c'est pas ça qui m'intéresse tant que ça. Là.
Ouais.
Parce que je sais que les jeunes qui rentrent. Comme si j'étais vieux, je suis pas vieux pantoute, là. Mais tu sais, il y a du monde. À 25 ans, là, j'avoue, tu as vraiment le goût de voler le gros 747.
Ouais.
Ça, c'est le trip. Là. Mais à un moment donné, plus que tu avances, plus que tu as des heures de vol, plus que tu te rends compte, c'est la qualité de vie là, que tu veux rechercher. Là. Tu veux pas trop de décalage horaire parce que ça te scrape le corps solide.
Ouais.
Fait que, c'est pour ça que c'est tout un compromis. Là. Puis là, quand tu changes d'appareil, tu perds de la seniorité aussi parce que chaque appareil a sa liste d'ancienneté. Faut comprendre là, qu'une compagnie aérienne, mettons comme WestJet, Air Canada, Transat, Jazz, name it, là, toutes ces grosses compagnies-là, là, ils ont tellement de pilotes que. Puis c'est pas juste le fait qu'ils ont tellement de pilotes, c'est le fait que la manière que ça fonctionne, c'est premièrement, c'est des compagnies syndiquées. Il y a trop de monde, ça marcherait pas. Ça n'a comme pas le choix d'être syndiqué. Fait que. Tu perds, quand tu changes d'appareil, si, mettons, les plus gros appareils, mettons, on va prendre, là, moi, je suis 737, mettons, je m'en vais sur le 787. Bien, le 787, là, c'est pas la même liste d'ancienneté que le 737. Là. C'est tous les gars et les filles qui sont formés sur le 787 qui sont sur cette liste-là. Puis c'est plus senior, parce que plus que c'est gros, plus que c'est payant. Fait que c'est tout le temps un gauge de même. Fait que si moi, je m'en vais, mettons, du 737, où je suis rendu relativement senior, donc là, je suis capable d'avoir pas mal les horaires que je veux, puis je m'en vais sur le 787, ben je vais tout perdre ça. Là. Ça veut dire que là, je me retrouve à oublie Noël, oublie vacances l'été, oublie les week-ends, oublie tout ça, là, ça n'arrivera pas.
Mm.
Tu veux aller où? Tu veux aller à Paris? Ben, tu n'iras pas à Paris, by the way. Tu vas faire les vols de nuit entre Vancouver et Montréal parce que tu n'as pas d'ancienneté. Tandis que là, moi, sur le 737, ben, j'ai le choix. Là. Je vais en Californie, je demande la Californie parce qu'aller vers l'ouest, c'est beaucoup plus facile sur le décalage horaire. Que de faire l'inverse qu'aller à Londres.
Ouais.
Là, en fin de semaine, je m'en vais à Londres.
Ben Jay, tu t'es facilité la vie en temps de marche, là.
Comment? Hein?
Choisir ce job-là avec des horaires qui sont atypiques. Et une blonde aux États-Unis.
Ouais.
T'habites à Québec à temps partiel. Ouais. T'as-tu juste fait des bons choix, toi, dans la vie, Jay?
Tu veux dire que tu trouves que je me complique la vie?
Ben, je trouve que, tu sais, t'aurais pu l'avoir un peu plus facile.
Ben, écoute.
T'es tellement relax en plus comme gars, tu sais.
Ouais, mais écoute bien la patente, là. Il y a eu la pandémie.
Ouais.
Faut jamais oublier ça. Pour nous autres, là, les pilotes, là, la plupart du monde ont perdu le job là,
ouais.
Là-dedans. Là, dont moi, là. Fait que moi, j'ai perdu ma job, je me suis retrouvé plus de job. Ma blonde travaille, on est à Québec, on a des obligations, puis là, il fallait trouver des manières de survivre à ça, là. Les salaires sont meilleurs aux États-Unis. On s'est dit, on s'en va aux États-Unis. Pour moi aussi, si j'ai un coup que je règle mes affaires d'immigration, pour moi, c'est beaucoup plus payant de travailler aux États-Unis que ça l'est au Canada.
Elle est américaine?
Non, du tout, québécoise.
Okay.
Mais elle, dans la santé, parce qu'elle est dans le domaine de la santé, c'est beaucoup plus simple pour elle d'avoir un visa de travail.
OK.
Ouais. Tandis qu'un pilote, oublie ça, là. Pilote, un visa de travail, c'est très compliqué. C'est comme si un animateur de radio, tu te dis, moi, je vais aller travailler chez K, nomme-moi une grosse station aux US. Là,
K-Rock.
K-Rock, à New York. Mais tu ne pourras pas y aller. Tu seras pas capable d'avoir un visa parce que les animateurs de radio…
Il y en a plein là-bas.
Ben, c'est ça.
C'est ça. Parce que pour une entreprise, si ils doivent justifier le fait qu'ils prennent un Canadien qui s'en vienne travailler pour eux aux États-Unis et qui a besoin de sa citoyenneté. Fait qu'ils peuvent pas le justifier parce qu'il y a plein de monde sur les listes d'attente pour être pilote d'avion pour eux autres.
Là. Exactement. Puis malgré qu'il y a quand même une pénurie de pilotes en ce moment, puis je connais des gars qui sont partis du Canada puis qui sont allés travailler aux États-Unis, ça se fait. Ça se fait avec un bon avocat en immigration, ça se fait. Là. Puis une couple de.
Toi, t'es là-dedans? Là?
Ouais, moi, je suis là-dedans, mais j'y vais de façon différente. Là. Mon processus migratoire, il est vraiment via ma femme.
OK.
On est mariés. J'haïs ça dire ma femme, là, mais. Ma blonde.
Écoute, mon gars de 7 ans m'a sorti ça en fin de semaine passée.
Ben voyons.
Il dit, papa, toi, t'as connais-tu ma femme? Je parle donc.
Hey.
Ben, c'est parce qu'eux autres, ils écoutent des YouTubers, là.
Ouais.
Puis ils ont des propos, tu sais, les Français, je sais pas, mais ils appellent ça ma femme, tu sais. Fait que là, lui, il a 7 ans, puis il appelle la petite fille à l'école ma femme. Puis là, je me dis, tu seras jamais comme ton père, toi. Fait que t'as besoin de changer. Maudit macho. Mais, tu sais, c'est c'est ça, ma femme. Mais non, c'est ta conjointe, c'est ta femme, c'est la femme que t'as épousée.
Oui, 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 c'est ça, exactement. Mais, fait que c'est pour ça, là, c'est sûr, la situation est quand même compliquée parce que je vis à deux endroits en même temps. Là.
Ouais.
Comme là, je passe quelques jours à Québec. Puis après ça, des fois, ben là, je descends aux États-Unis.
Oui, en même temps, tu peux sortir quand tu veux quand t'es à Québec, là.
Oui, oui.
Fait que moi qui pensais que c'était compliqué à vivre, dans le fond, t'as tout planifié ça.
J'ai l'air cave. Mais...
les auditeurs vont certainement me demander pourquoi. Qu'est-ce qui est le plus trippant pour un pilote d'avion comme toi? Est-ce que c'est avion de brousse ou avion de ligne?
définitivement avion de brousse.
Oui.
Ben oui.
Les challenges sont différents?
Oui. Avion de ligne, là, ça vient un peu... C'est drôle, je jasais de ça avec un gars sur mon dernier vol. J'allais à Los Angeles, puis on se parlait de ça, puis il me disait... Ouais, ça vient plate, des bouts. C'est con à dire, hein? Tu vas me dire, hey, ouais. Arrête, t'as des belles horaires, t'as tout. Non, non, mais c'est comme n'importe quoi, là. C'est comme n'importe quoi. Faut demander de se rentrer ça dans la tête.
Parce que tu te sens mal de dire ça, parce que t'es privilégié de faire le job qui te passionne. Mais les gens qui voudraient faire ce job-là, qui ne le font pas, savent pas c'est quoi au day-to-day la job. Toi, tu le sais, t'es dedans, t'es à tous les jours. Tu fais toujours la même recette, là.
Ben oui, puis il faut comprendre que tu passes une vie dans les valises.
Ouais.
Je vis dans ma valise depuis des années. J'ai une valise constante là, qui me suit tout le temps. J'ai toujours du stock dedans, rempli, vide la valise, lave le linge, remets du linge. Tout le temps. Mange toujours dans les restos. Là, une qui va me dire ben, oh, t'es chanceux de manger tout le temps dans les restos. Non, je suis écœuré en sacrement de manger dans les restos, ouais. Je peux vous le dire.
Ouais.
Je suis vraiment écœuré parce que c'est pas bon pour la santé. Trop de sel, trop de ci, trop. Tu sais, j'avais de la misère à ma. Tu sais, j'ai passé les deux dernières semaines dans l'Ouest. Je te disais un peu plus tôt que c'est plus facile sur le décalage horaire, mais ça l'affecte quand même un petit peu. Fait que, tu sais, j'essayais de me coucher comme à 11h30, minuit, là, dans les derniers jours. J'arrive pas à dormir. Tu sais, il était encore 9h, là, dans ma tête, là. Fait que là ça veut dire problème de sommeil un peu. Fait que, c'est ça, il y a toujours un... Il y a des côtés difficiles à ça, là, à gérer tout ça. Là.
Puis pilote de brousse, c'est quoi? C'est le fait que les avions étaient plus petits, il y avait des défis différents, les vents étaient plus forts, il y avait un plus gros impact sur l'avion.
Ouais, ben c'est plus au niveau challenge, t'as moins de technologie à t'apporter. Il
ouais.
Faut que tu travailles. Là. C'est vraiment la vraie job de pilote qui t'apprenne. C'est là que tu développes des gros skills.
Ouais.
Mais c'est pour ça qu'on passe un peu tout par là au départ. Là. Parce que c'est sûr que la ligne, ça implique des défis différents. Mm-hmm. Excusez-moi, là, mais des défis logistiques un peu plus différents, comme le commuting. Quand tu es sur la brousse, les gars de brousse, mettons, il y en a plus beaucoup, là, by the way, là, de la brousse, des flottes, tout ça, là, les compagnies de d'hydravions, là, ça n'existe quasiment plus. Là. Mais tu sais, de la brousse, ça peut être, moi, je considère quasiment comme des petites compagnies comme Pascan ou Chrono. Les gars, des fois, ils vont dans des petits aéroports. C'est un peu de la brousse. Là, mm-hmm. C'est la brousse des temps modernes, un peu, c'est ça. Là. Fait que c'est où je m'en allais avec ça?
Ben en fait, c'était la différence entre pilote de ligne et pilote de brousse. T'appréciais plus la brousse parce que les avions sont différents, il y a moins de technologie, les défis sont plus élevés.
Oui, oui, oui. Puis je parlais du commuting par rapport à ça parce que la brousse, ce que ça fait, c'est que tu reviens chez vous quand même plus régulièrement.
Mm-hmm.
Tu reviens à la maison. C'est possible de vivre à Québec. T'sais, quelqu'un qui veut vivre à Québec, on s'entend là, que la qualité de vie à Québec est quand même c'est une bonne qualité de vie là, t'sais, comparativement à d'autres places. Là. T'sais, mettons juste une plus grosse ville comme Montréal ou Toronto. Là. C'est sûr que Québec, en frais de qualité de vie, c'est plus intéressant. Fait que si tu veux rester dans un plus petit marché comme ça, t'es mieux de regarder des plus petites compagnies. Là.
Ouais.
Parce que moi, dans le fond, je suis toujours dans un moyen de transport. Là. Soit que je pars des États-Unis, je m'en vais à Montréal, là, je vais faire mes vols, je reviens à l'aéroport, là, je ressorte dans un avion passager, puis là, je m'en retourne chez moi. Ou j'arrive à Montréal, là, je pogne mon auto, pendant 2h15, je m'en vais à mon chalet. Là, je retourne à moi. Tu sais, je suis toujours dans le transport. Tout le temps, tout le temps.
Tu viens que tu t'y habitues, mais c'est grisant à longue.
Oui.
Okay.
C'est fatigant.
Tu sais, on avait rencontré, lorsqu'on avait fait cette fameuse vidéo-là, là, qu'on avait fait, toi et moi, puis je tiens à rassurer les auditeurs, oui, on était habillés, contrairement à ce que vous pourriez penser. on avait rencontré un pilote que tu me disais qui était attitré à un avion. C'était un pilote privé. Il était payé à l'année. Puis il devait toujours se tenir prêt à décoller si le président de l'entreprise voulait prendre son avion. Puis son salaire est à peu près, tu me dis que c'était 2011, 2012, 2013 dans ce coin-là.
Ouais.
Son salaire est à peu près de 80 000 $ par année.
Ouais.
Je trouvais ça crèvement bien pour un gars qui était attitré à l'avion puis qui pouvait rester ici au Québec pendant 2-3 mois s'envoler. Puis touc, le propriétaire décide de partir en Floride. Pouf, il part avec. Là.
Ben oui. Oh oui, c'est mon chum Pat, c'est excellent. Là, il est encore là. Hein,
encore
parce
là.
Que c'est tellement une belle gig, là, tu sais, dans le sens où que tu y a beaucoup de congés. Des fois, il travaille fort, mais là, comme récemment, là, l'avion était en maintenance. 3 mois.
Oh boy.
Ben là, 3 mois. Trois mois, il est allé faire le tour de l'Amérique du Sud, est revenu, puis...
Moi, je deviendrais un king du Xbox.
Ah ouais?
NHL 2023. Mais lui, il est allé se promener, c'est ça? Il
lui,
met 3 mois
voyagé.
Puis la paie, rentre pareil.
La paie, rentre pareil. C'est des très belles jobs. À Québec, il n'y a pas beaucoup de jobs de même.
Ben non, c'est ça.
Sinon, tu travailles au service aérien gouvernemental sur les L'avion ambulance.
Ouais.
Les avions qui éteignent les feux de forêt, Sop justement, feu, en ce ouais. moment, là, la Sopfeu. Les avions de la Sopfeu, c'est des belles jobs aussi, là, parce que les gars vont travailler pas mal plus l'été, puis l'hiver, très mollo.
Ça, c'est une autre technique là, que ça doit être pas évident à
prendre. Ça, c'est de la brousse, là, carrément. Ouais.
Parce que tu. Ouais, j'imagine qu'ils doivent connaître leur charge, là, mais tu sais, il faut que tu atterrisses quand même sur un lac.
Oui.
Il faut que tu ramasses l'eau, puis après ça, tu redécolles. Il faut que tes calculs de distance soient bons et tout ça.
Mais hein? Puis ouais, il faut que tu aies de l'œil. Puis c'est souvent des gars et des filles qui ont de l'expérience en hydravion.
OK.
Ben, en fait, c'est ce qu'ils demandent pour aller là. Mais il y a tellement plus d'hydravions que là, en ce moment, le service aérien gouvernemental a de la misère à trouver des candidats qui ont de l'expérience en flotte, comme on dit dans le jargon. Là.
T'as-tu déjà eu peur?
Peur. Non. Adrénaline à côté dans le tapis, oui. Mais peur, non. J'ai okay. pas eu peur. Je me dis toujours que c'est. Écoute, je fais tellement confiance à la patente. Je fais confiance à mes connaissances. Je fais confiance à mes compétences. Puis
tes collègues aussi qui sont là.
À mes collègues, à l'industrie en général. Là.
Quand okay. tu dis que mettons que tu as eu une grosse dose d'adrénaline, c'est dans quelles circonstances?
J'ai eu une porte qui a ouvert en vol avec des passagers qui se sont mis à crier en arrière. C'est dans la petite aviation, inquiétez-vous pas. Là. Ça arrivera pas quand vous allez aller à... Ça arrivera pas quand vous allez aller en République dominicaine.
T'étais à quelle hauteur?
Ah, j'étais à Rimouski. Écoute, on est décollé de Rimouski, on part. Puis en plus, on a des mauvaises conditions météorologiques. Fait que non, c'était pas le fun, ça. Il y avait deux gars, deux filles, c'était un charter, là, un avion privé, là, tu sais. Fait que on décolle, puis à 800 pieds, la porte à pop en arrière, le vent. C'est un avion non pressurisé, je dois le mentionner.
Ben oui, c'est ça.
En partant, là, c'est pas si grave que ça. Là. Tout va bien. Mm-hmm. Mais c'est sûr pour les gens en arrière. Puis là, tu peux pas lui parler ben parce que là, tu as de quoi gérer en
c'est
avant.
C'est ça. Puis pour toi, tu dis que c'est pas si grave que ça parce que tu as les connaissances. Tu l'as dit, l'avion n'est pas pressurisé. Fait qu'il n'y a pas personne qui va passer par un trou là, gros comme 10 cents. Là,
non.
comme des films. Là. Mais tu sais, je vais t'avouer, Dieu, que je décolle. Moi, je l'ai fait. Moi, j'ai fait mes cours. Mais je décolle, j'étais à 800 pieds. C'est 800 pieds, tu m'as dit?
Oui, autour
j'étais
de
moi. J'étais à 800 pieds, je suis assis dans les passagers, puis la porte a décollé. Je me dis, si la porte peut décoller, le reste, il va faire quoi, là?
Ben...
les ailes, ils vont-tu se dire bonjour en haut, tu sais? Je sais ça.
Toi, t'as trop écouté de comique, là, avec tes kids, là.
Non, mais pour eux autres, c'est normal qu'ils étaient stressés.
Ben oui. Mais en fait, j'avais un gars qui avait fait du parachutisme. Fait que lui, il était là, ben, tout est normal.
Nous autres, c'est toujours de même.
C'est ça. Moi, il n'y a jamais de porte dans mon avion. Fait que, tu sais, ça paraissait... Mais le blond n'ont pas aimé ça.
Hey, c'est monnaie.
Fait que,
puis c'était dû à quoi? Hein? Ça avait mal été fermé.
Porte mal fermée. Écoute, là, ça, c'est... Puis en plus, je lève ma main. Là, c'est moi qui... Mais j'avais pas beaucoup d'expérience au départ. On m'a... Tu sais, écoute, c'était une erreur. Une erreur pas très...
T'as-tu gardé ta job après?
Oh oui.
Ouais.
Oh oui.
T'as expliqué ça comment?
Ah ben écoute, tu me mets mal à l'aise. Ouais, mais quand t'as 280 heures, si tu fais pas d'erreur, t'as un problème.
Ben
puis si t'as 12 000 heures, puis tu penses que tu fais pas d'erreur, t'as un Christi de problème aussi.
Ouais,
des
ça.
Erreurs, on va toujours en faire. T'sais. Au début de ta carrière, tu vas en faire des plus importantes.
Ouais.
Le risque qui te mène à un accident fatal sont faibles.
Mais tu vas apprendre de ces erreurs-là.
Ben il faut toujours t'en faire des erreurs. Moi, si je vole avec un gars qui... Ce qui, lui, il se dit, ne fait pas d'erreur, c'est le gars que je vais avoir le plus peur de voler avec.
Mm-hmm.
Hein, parce qu'on en fait... Tu sais, il y a des études de la NASA qui sortent, là, qui ont sorti, pardon, sur les pilotes de ligne. Puis c'est des erreurs constantes. Là. Mais si je parle des erreurs mineures, ça soit des erreurs de communication, des erreurs de... Tu sais, des petites une procédure qui s'est pas faite de la bonne façon. Il y a toujours des erreurs qui se produisent.
Toi, t'es lit ces rapports-là?
Non, mais on a des formations annuelles sur les nouveaux rapports qui sortent,
okay.
Sur différentes formations. Là, on a comme une demi-journée même avec les agents de bord où on va sortir les gros rafts, là, mettons qu'on tombe dans l'eau, puis qu'on va,
okay.
on va faire l'attente, puis des formations de survie, tout ça. Là. Fait que ça, c'est annuel dans les grosses compagnies. Pis, fait qu'ils nous parlent, oui, de ces rapports-là.
OK. Puis, c'est-tu déjà arrivé où tu t'es repris comme deux fois pour atterrir avec un gros avion?
Oui. Oui, ouais, ça arrive quand même plus fréquemment qu'on pense.
Ah ouais?
Oui. Ben pas repris parce qu'on a manqué, on n'était pas capable à cause on a mal calculé nos affaires. Là. Non, juste overshooter qu'on appelle, là, faire une remise des gaz. C'est juste à cause, mettons, il y a un avion. Dans les aéroports américains, là, ils nous gardent très, très serrés. Il y a beaucoup de trafic. Puis normalement, ça va très bien. Mais même à Toronto, ça arrive. Récemment, là, vois-tu, mon dernier vol, je suis arrivé à Toronto, l'avion était sur la piste, puis on était à 400 pieds sol. Là. Fait que l'avion devant nous, il faut qu'elle sorte. Là, on la voit, là, tout est beau, c'est visuel. Là.
Ouais.
Le contrôleur nous a donné l'autorisation d'atterrir, c'est beau. Mais là, lui, le contrôleur, il a les deux yeux sur l'avion, sur la piste. Puis il est là, sort, sort, sort. Moi, je regarde en avant, je dis, ah, c'est beau, on est correct. C'est pas grave, si ça arrive, on appelle ça un go-around, puis on part.
Dans votre cas, vous autres, je sais, pour les plus petits avions, fallait faire attention, mais la fameuse turbulence de sillage, là.
Oui.
Est-ce que ça vous touche, vous autres, avec vos gros avions?
Ah oui, absolument.
Ouais.
Oui, oui, j'ai décollé à Los Angeles dernièrement, puis le MD-11 de FedEx, qui était juste devant nous, qui est un avion qui en produit beaucoup, il y a certains modèles qui produisent plus de sillage que d'autres, là. Mm. Le MD-11, là, c'est comme... un avion, trois moteurs, là, gros moteur dans la queue, puis c'est un très gros, c'est un gros porteur. Là.
Ouais.
Fait qu'il est décollé, puis on l'a vu, là, lui. Pour moi, il était vide, là, les gars s'en sont amusés un peu, là, surtout un avion cargo, t'as pas de passagers. Mm-hmm. Il est décollé quasiment à verticale avec son gros porteur. Fait que ça, c'est... Il aurait pu penser à nous autres en arrière. Là. Nous autres, on est 170 passagers, on va partir là-dedans. Fait que c'est pas l'idéal, puis aux États-Unis, ils nous gardent serrés. Fait que oui, ça arrive. Peu importe le gros porteur ou petit porteur... faut se méfier de ça tout le temps.
Les avions les aéroports les plus capotés où tu as atterri puis tu te disais waouh, c'est site là, c'est pas l'aéroport international Jean Lesage.
Ouais, parce que mettons que tu peux pas mettre capoté puis Jean Lesage dans la même phrase. Ça marche pas. Les aéroports les plus...
Quand t'arrives à Jean Lesage, faut-tu que tu tapes sur le micro pour réveiller le gars tantôt?
Ouais, ou bien tu cliques 5 fois pour allumer la lumière. Non, ils ont quand même évolué un peu plus que ça.
Ouais.
Mais les aéroports challengeants, là, récemment, San Francisco, que j'ai fait souvent. San Francisco, probablement qu'aux États-Unis, c'est un que je trouve challengeant avec LaGuardia.
Ouais, JFK puis LaGuardia, c'est ça. Ils communiquent ensemble, eux autres.
Ils communiquent ensemble, non. C'est deux aéroports distincts.
Okay. Mais les gars se parlent pas parce qu'il y a du trafic en sacrifice dans ce secteur-là.
C'est à cause, c'est tout divisé. Là. Plus qu'on descend, plus que là, c'est le contrôle de New York. Après ça, tu descends. Puis là, plus que tu vas être dépendamment des paliers d'altitude que tu vas être en approche, tu vas parler à différents contrôleurs.
Ouais.
Puis à la fin, tu vas parler au contrôleur de la tour de LaGuardia ou de JFK.
Je comprends.
Ouais, mais en haut, c'est tout le centre de contrôle de New York, puis il y a Newark aussi, il ne faut pas que tu oublies dans ce coin-là.
C'est vrai, mais oui.
À Newark, j'ai tout fait ces aéroports-là. Mais c'est ça, LaGuardia, c'est touché. San Francisco, super touché. Puis si je regarde à l'international, Mexico City, c'est quand même
une
drôle de place, de par la piètre qualité du contrôle.
Aérien.
Mexicain.
Ouais. Est-ce que au niveau du langage, parfois, tu pognes, mais je sais pas, moi, quelqu'un qui. Quelqu'un qui vient de l'Inde, là. T'sais, lui, il parle anglais, il parle bien, mais il parle vite avec un accent. Est-ce que toi, tu es capable de... Y a-tu déjà un moment où tu as demandé de répéter?
Ben, je parle en Inde. Fait que,
non, mais aux États-Unis, ça arrive régulièrement. Les contrôleurs aériens qui ont été embauchés puis qui ont des accents très prononcés.
J'ai eu des accents même au Canada, là, des accents australiens, des affaires comme ça, là, des gens qui ont immigré au Canada puis qui sont contrôleurs aériens, mais... On peut pas dire que c'est un problème.
Pas de problème.
Non, j'ai jamais eu de problème de communication. Au Mexique, c'est difficile.
Okay.
Parce que les autres sont en espagnol, évidemment, puis nous parlent en anglais. Londres, ben là, c'est l'anglais british. Normalement, ça va très bien, je trouve. Heathrow, c'est un aéroport là, qui opère bien, malgré le trafic immense qui va là, là.
La question la plus débile de la soirée qu'on peut poser à un pilote de ligne, t'as-tu déjà vu quelque chose en haut qui venait pas d'ici?
Faudrait revenir à nos chroniques de l'époque.
Ouais! T'as-tu le droit d'en parler de ce que tu vois en haut? Y a-tu des gens qui te contrôlent? T'as-tu des puces sur toi écouter ce que tu dis?
5G à l'intérieur de moi, là, mais à part ça, non. Honnêtement, les ballons, quand il y a eu l'épisode des ballons, ça, j'en ai vu en revenant de puis ça, tout
mais
le monde.
C'est des ballons météorologiques?
Ben, on sait pas, là, tu sais, c'est ça. Là,
toi, tu parles des ballons chinois? Là?
Ouais, mais il n'y avait pas juste des ballons chinois. Des ballons, il y en a comme partout, là,
c'est ça.
Régulièrement. Puis là, il y a eu comme l'épisode des ballons chinois où que tout le monde un peu voyait des ballons chinois partout. Mais en réalité, on n'a pas eu vraiment suite de ça. Là. C'était-tu vraiment des ballons chinois? Puis il y a comme eu une passe, là, quelques mois de ça, là, à la fin de l'hiver, là, début de l'été.
Mais des ballons météorologiques, il y en a partout.
Oui, mais c'est ça. Non, le soir, ce qui est impressionnant, c'est la station spatiale.
Mm-hmm.
La station spatiale, on peut bien la voir. Puis des fois, les satellites, ça a l'air un peu de des ovnis. Là,
Elon Musk, là.
Ouais.
Quand ils passent, là, c'est impressionnant. C'est quoi, comme une vingtaine de satellites qui passent en même temps?
Ouais, mais il y a tellement d'autres satellites. Je sais pas c'est lesquels que je vois, mais des fois, c'est juste, mettons, un vol de nuit ouest en est, un red-eye qu'on appelle. Là. Donc, je pars de l'ouest comme à minuit, puis j'arrive à Montréal à 7h du matin. Là. Fait que là, le soleil, tu sais, plus que tu avances vers l'est, plus que le soleil se lève. Là. Fait que là, le soleil, lui, tu le vois même pas encore, mais la lumière avec la courbe de la Terre reflète, et la Terre n'est pas plate.
Et
j'ai-tu dit ça en ondes?
Il a dit ça en ondes.
Fait que là, le soleil reflète sur les genres de palmes, pas les palmes, là, mais les ailes miroirs du satellite, puis ça fait des flashs dans le ciel. Là.
Ouais.
Fait que toutes sortes d'affaires de même, mais non, j'ai pas vu de petit bonhomme vert ou de...
Là, tu vas en décevoir plusieurs.
Je sais.
Ouais. Ils vont dire que t'es embauché, t'as une paye du gouvernement.
C'est sûr, j'attends mon chèque la CIA.
Parle-moi, comment ça se passe quand tu pars d'ici, mettons, puis qu'on t'envoie au Mexique? Là. T'es-tu là-bas pendant deux semaines?
Deux semaines dans un resort.
Costume de bain, tout va bien? Ou bien vous êtes dans l'hôtel puis vous attendez votre prochain vol?
Non. Ça dépend des... On appelle ça des pairings là, quand on part, là, mettons, ouais. 3-4 jours. Moi, je bide. Quand je dis je bide, c'est à cause de nos horaires. C'est assez complexe la manière que ça fonctionne. Là, mais plus qu'on a de la seniorité, plus qu'on a de points pour comme acheter nos horaires.
OK.
Faut que tu vois ça de même, là, dans le fond. Là, fait que plus que tu as de seniorité, plus que tu as comme d'argent fictif pour dire moi, je veux juste aller au Mexique l'hiver, je veux juste aller à Puerto Vallarta.
OK.
Ben, c'est ça. Fait que là, à Puerto Vallarta, souvent, mettons, comme exemple, ben, tu as des layovers de 30 heures, tu en as de 48 heures. C'est quand même intéressant. Là. Si tu as un 30 heures, 48 heures, puis oui, on est dans un resort. Là,
mais as-tu le temps d'en profiter?
Oui. Oh, oui, Mexico, j'étais allé là tellement de fois. J'ai amené ma blonde là 3 fois jusqu'à date. Fait que ça donne une idée. J'étais allé vraiment plusieurs fois. J'ai fait le tour de la ville. Je me suis promené. Beaucoup de marches. C'est sûr, tu ne peux pas exagérer non plus dans les activités. Ben tu ne peux pas aller trop loin. J'étais allé au Grand Prix de Mexico.
Tu peux même pas faire de plongée sous-marine.
Ben moi, je ferais jamais ça.
Non, c'est ça. Mais tu peux pas en faire. Tu peux pas en faire.
Non, parce que légalement, tu peux pas embarquer sur un vol après.
L'azote, oui.
Ouais.
Est-ce que, tu as le temps de te reposer un peu. Comment tu fais pour lutter contre la fatigue? Parce que tu en parlais tantôt. Tu sais, des fois, tu vas quelque part, tu as du décalage horaire, puis là, il faut que tu repartes comme plus tard. Normalement, ils vous laissent le temps de bien dormir, mais tu réussis pas tout le temps à bien dormir.
Non. Ah, les pilules, regarde. Alors.
On shoot!
Ouais, non, honnêtement, la fatigue, t'as gère du mieux que tu peux. Il y a du monde qui a de la difficulté. Mélatonine, honnêtement, je faisais comme une semi-blague, là, les pilules. Mélatonine, il y a du monde qui utilise ça.
Ça l'aide-tu?
Ça l'aide.
Ouais.
C'est naturel, là, mais il y en a qui en prennent, puis il y en a qui m'ont dit que ça faisait rien. Moi, c'est juste quand j'ai du gros décalage, j'en prends très, très rarement, mais quand je vais, mettons, à Londres, puis j'ai pas pour longtemps à Londres, je vais peut-être m'en prendre une pour dormir le soir, parce que, tu sais, ça dépend toujours à l'heure que tu arrives. Comme là, je vais aller en Islande. Là. L'Islande, il fait clair là, 24 heures sur 24.
Ouais.
Bonne chance pour dormir. Là.
C'est ça.
Pas, ben, beau fermer les rideaux, on dirait que ton corps le sent là, qui fait clair dehors. Là.
C'est un peu plus difficile. Est-ce que les pilotes dorment dans l'avion?
Ben oui, on peut.
Pas les deux en même temps.
Non. Oui, on fait du ce qu'on appelle du controlled rest. Fait qu'on peut dormir. Il y a des procédures à suivre. L'agent de bord en arrière, une des agents de bord qui est en charge va être au courant qu'il y a un pilote qui va faire un controlled rest en avant. Donc, pour pas que l'autre s'endorme ou ait un malaise, elle va appeler. Là.
Elle va le surveiller.
Oui, 30 minutes maximum.
OK.
Fait que.
Ça vous arrive-tu régulièrement?
Oui, ça dépend des gars, des filles. Là. Moi, sur des vols de 5-6 heures, c'est clair que je vais me clencher un petit 30 minutes. Ça fait du bien. Là. Quand je descends le soir à Mexico puis il est tard, avant de faire mon approche, mettons à 1h30 avant d'arriver, là, je vais faire une demi-heure. Comme ça, je vais me réveiller. Je vais être super sharp plutôt.
Ouais, t'es plus alerte. Les avions électriques, tu y crois-tu?
Ah, c'est n'importe quoi, ça. Non, écoute, il y a des avions électriques. Je vois pas comment ça peut fonctionner.
Hey, moi, ça me rassurerait d'avoir les deux. Là. Honnêtement, là, c'est gaz puis électricité. Moi, ça me va, mais juste électricité, on dirait que je suis pas sûr.
Non.
Moins qu'il y ait quoi, deux, mettons une centaine de batteries.
Ben, le problème, c'est qu'avec le froid en haut, il fait froid en haut. Fait qu'il faut que tu échauffes. Parce que s'il fait froid, c'est comme une Tesla. Là. Une Tesla l'hiver, ça vire pas comme. Ouais. Ça n'a pas le même range qu'une Tesla l'été.
Mm-hmm.
Fait que là, si tu es en haut, ça veut dire que tes batteries ont moins de range. C'est officiel. Là. C'est des batteries au lithium, je sais pas trop. Là.
Ouais.
Ben, tu sais, ça veut dire que ça prend un chauffage des batteries. Fait que là, tu tires du jus des batteries pour
réchauffer
les
batteries.
Regarde, j'ai pas vu la technologie complète, mais je trouve ça complètement absurde de penser qu'on. Tu sais, le range, là, c'est comme. Montréal-Ottawa.
Ouais. Est-ce que les avions d'aujourd'hui sont capables de décoller, voler et atterrir seuls sans l'intervention humaine?
Décoller, non. Voler, oui. Ça fait longtemps. Atterrir, oui. Oui, atterrir, oui. Moi, j'ai la capacité sur l'avion sur lequel que je vole de faire ça. On ne l'utilise jamais. On l'utilise juste quand que, vraiment la météo est à 0000.
OK.
Puis c'est vraiment la seule fois qu'on a le droit de l'utiliser. C'est okay. Juste quand la météo est à zéro. Fait qu'on le pratique en simulateur. Je l'ai vu en simulateur. Je ne l'ai jamais vu en vrai.
Ouais. OK. Fait que, les salaires. Parce que là, il y a des gens qui nous écoutent depuis le début de l'émission, qui a commencé aux alentours de 18h, puis qui disent « Marceau, comment ça gagne un pilote d'avion? » Ben, tu sais, on peut parler du début quand on commence à 200 heures et on sort de l'école. Là, ça se peut que vous fassiez du bénévolat pendant une couple de semaines pour ramasser vos heures.
Du genre de bénévolat au début, oui. Puis même dans les régionaux, jusqu'à temps que tu passes commandant dans les régionaux, c'est pas ce qu'il y a de plus payant.
OK. Ça peut ressembler à quoi dans le c'est pas ce qu'il y a de plus payant?
50 000 par année.
50 000?
Oui.
Fait que est-ce que c'est un bon salaire d'entrée?
Pas aujourd'hui.
Non.
Pas dans le domaine aujourd'hui. Ça change beaucoup en ce moment. Les États-Unis, tous les régionaux américains puis les majors aux États-Unis ont tous renégocié leur convention collective durant la pandémie, après la pandémie, parce que les autres, il manque beaucoup de pilotes. Il en manque aussi au Canada. Les régionaux ont de la difficulté à avoir des pilotes. Mais vois-tu, les régionaux, ici, il va falloir qu'ils s'ajustent. Ils n'auront pas le choix. C'est un peu ça. Puis il faut voir un peu un premier officier versus un commandant. Là. Grosso modo, c'est environ la moitié du salaire du commandant. Là. Là, avec l'ancienneté, ça augmente. Mm-hmm. Les années de seniorité, un commandant chez les régionaux va faire aux alentours de 180 par année. Là.
Ce qui est très bon.
Ce qui est très bon.
Ouais.
Ouais. Mais si tu regardes aux États-Unis, c'est plus que ça. C'est en US. Puis c'est moins d'impôts.
Ouais. C'est pour ça que tu veux te pousser l'autre bord.
Ouais, c'est ça.
est-ce que, là, quand tu dis régionaux, là, toi, tu n'es pas dans le régionaux. Là,
non, moi, je suis dans les qu'est-ce qu'ils appellent les airline major, là, ceux qui ont des moyens, des gros porteurs. Ce que j'essaie de regarder en même temps ici.
Mais sans nous dire exactement, ça peut jouer entre quoi et quoi, le salaire d'entrée puis un salaire de senior.
Ouais, grosso modo, au Canada en ce moment, là, mettons, je vais vous dire, salaire d'entrée 60-70, puis senior, ben là, c'est 300 et quelques.
C'est crissement bon.
Oui, oui.
Oui, vraiment. Ouais. Fait que c'est encore possible de très, très bien gagner sa vie dans l'aviation. Ouais. Jay the Pilot, hey, ça a été un plaisir. On a réussi à passer au travers de ça. Il me reste encore 1 million de questions. Fait que tu vas être obligé de revenir dans quelques mots. Tu n'auras pas le choix. Là.
Pas le choix.
Mais... T'as-tu aimé ça? C'est une belle expérience.
Oui, c'est quand même une belle expérience. Beau petit studio.
Ben oui, on a tout bâti ça chez Leclerc Communication. Puis on est très heureux. Hey, on peut te suivre sur les réseaux sociaux. Puis on a la chance de t'entendre une fois de temps en temps avec Jeff sur les ondes de Radio Pirate.
Bien sûr, Jeff et sa gang. Vous pouvez me suivre sur Jay the Pilot. Pas de Pilot, mais de Pilot TE. Sur Twitter. Je mets des petites photos de vol puis une coupe d'opinion un peu...
Voilà.
Un peu coriace.
Voilà. On va aller sur les réseaux sociaux t'ajouter. Merci beaucoup, mon ami.
Yes, sir.
Salut. Good job. Marceau, le soir.
Le soir. On aurait aimé être les premiers à vous annoncer que le Mazda CX-5 est le VUS le plus agréable à conduire de sa catégorie. Mais c'est déjà écrit dans Protégez-vous. On aurait aussi aimé être les premiers à vous annoncer que l'habitacle du Mazda CX-5 est un modèle d'élégance. Mais Protégez-vous l'a écrit aussi. Toutefois, on peut vous annoncer en primeur que c'est maintenant à votre tour de venir l'essayer parce qu'il y a présentement des Mazda CX-5 avec traction intégrale iActive de série chez votre concessionnaire Mazda. Passez dès maintenant.
Vous cherchez un endroit spécial pour le brunch du dimanche? Venez goûter la cuisine du Moulin de Beaumont. Savoureuse, unique et servie dans un décor parfait pour un délicieux moment en famille avec une vue exceptionnelle sur le fleuve et l'île d'Orléans. Réservez votre place, moulindebeaumont.ca.
Auto Hi-Fi. Innovation et perfection haute performance.
Auto Hi-Fi.
Hi-Fi. Découvrez un univers multiservices. Sonorisation, GPS, vitres teintées, barrière, écran, intégration audio-vidéo, caméra de recul et démarreur à distance.
Auto Hi-Fi. Boutique, atelier d'installation et service mobile. Une équipe de passionnés.
Auto Hi-Fi. La solution, peu importe marque ou type de véhicule, commercial ou personnel.
Auto Hi-Fi, rue Bouvier. L'excellence intégrale à Québec.
Hey chérie, tu sais, dans l'annonce avec le gros orteil dégueulasse, là, ils disent qu'il faut que t'ailles voir un médecin. Hein?
Ouais, c'est ça qu'ils disent.
Qu'est-ce que t'attends?
N'attendez pas. Prenez la mycose des ongles au sérieux. Dès les premiers signes, consultez votre médecin. Il existe des médicaments d'ordonnance efficaces à appliquer sur l'ongle.
C'est le temps de gâter papa grâce à Mathieu Performance. Jusqu'à dimanche, obtenez 25% de rabais sur une sélection de casques, souliers et maillots de vélo pour hommes en inventaire. De plus, découvrez la plus large sélection de vélos pour hommes à Québec. La fête des pères, c'est chez Mathieu Performance que ça se passe. 496 Première Avenue.
L'été, c'est fait pour se gâter. Se gâter avec le menu estival de Normandin. Du homard en guédille, sur pizza ou en poké, de quoi vous faire saliver. Et puis qui dit été, dit chaleur. Savourez la fraîcheur de nos bons repas au quinoa et au fromage de chèvre, au saumon, au poulet mariné ou au General Tao. Et là là, avec autant de plats ensoleillés, Normandin, ça fait plaisir.
La récolte des sourires vous invite à ralentir, surtout dans les quartiers résidentiels et les zones scolaires. Adoptez une conduite responsable et sécuritaire. La sécurité routière, j'en fais mon affaire. Une initiative de solidarité famille et sécurité routière. Merci de faire route avec nous.
Boulevard 102, 100% Québec. On vit pour le rock.
Une propriété Leclerc Communication.
Marceau, le soir. La meilleure façon de commencer sa soirée. Marceau, le soir. Le soir.
Alors voilà, c'est tout pour moi. Je vous souhaite de passer une excellente fin de soirée. Encore une fois, ça a été un plaisir, une belle heure en compagnie d'un pilote d'avion, un pilote d'avion de ligne, Jay, qui est là avec nous autres, Jay de Pilot. Actuellement, sur Québec, c'est nuageux, des probabilités d'averse encore pour ce qui est de ce soir, des orages aussi, des probabilités d'orage maximum de 22 degrés. Pour ce qui est de ce soir et cette nuit, ben, c'est des averses avec un minimum de 13. Demain, samedi, des averses maximum de 17. Et dimanche, ben, ce serait nuageux avec un maximum de 18 degrés. Et lundi, retour au boulot, ben, ce sera ensoleillé avec un maximum de 22. Je vous souhaite de passer un excellent week-end. Ça a été un plaisir. On vous rejase lundi, sans faute, 11h30 pour ce qui est de Marceau le midi. Merci. Bye bye.
Marceau, le soir. Le soir.
On aurait aimé être les premiers à vous annoncer que le Mazda CX-5 est le VUS le plus agréable à conduire de sa catégorie. Mais c'est déjà écrit dans Protégez-vous. On aurait aussi aimé être les premiers à vous annoncer que l'habitacle du Mazda CX-5 est un modèle d'élégance. Mais Protégez-vous l'a écrit aussi. Toutefois, on peut vous annoncer en primeur que c'est maintenant à votre tour de venir l'essayer parce qu'il y a présentement des Mazda CX-5 avec traction intégrale iActive de série chez votre concessionnaire Mazda. Passez dès maintenant.
La coopérative de propriétaires L'Ancrage facilite l'accès à la propriété pour les premiers acheteurs avec son nouveau projet immobilier à Saint-Nicolas, près des ponts. 260 unités dont la livraison est prévue pour l'été 2025 sont disponibles. Pour plus de détails, visitez coopproprioancrage.com.
L'atelier célèbre son 11e anniversaire. Pour l'occasion, participez à une soirée originale et festive le 20 juin prochain sous la thématique New Country. Les billets sont au coût de 150 $ et les profits de la soirée seront remis au Centre CASA, organisme venant en aide aux personnes atteintes de dépendance. Taureau mécanique, jongleur et cracheur de feu, troupe de danse, Blue Ridge Band, bulles, vin et bière à volonté. À l'atelier, on fête pas à moitié. Achetez vos billets sur bistroatelier.com.
Boulevard 102 dans votre char. Québec, Sainte-Catherine, Saint-Og, en dessous du viaduc sur Duplessis, Lévis, Laurier Station. Plus loin que ça, Boulevard 102.1, l'application.
Boulevard 102.1.
Le 1er juillet approche à grands pas. Si vous devez déménager et que vous n'avez pas trouvé votre prochain logement, la Société d'habitation du Québec et ses partenaires vous rappellent que vous pouvez obtenir de l'aide dans vos recherches. De plus, si vous êtes un ménage à faible revenu, vous pourriez recevoir jusqu'à 170 $ par mois pour vous aider à payer votre loyer grâce au programme Allocation logement. Pour en savoir plus sur le programme ou pour du soutien dans vos recherches, visitez québec.ca/recherche-logement. Un message de la Société d'habitation du Québec.
En juin, chez Pièces d'auto économique, profitez des meilleurs conseils et d'un rabais de 15% sur nos amortisseurs déjà assemblés de marque McPherson et Unity. De grandes marques, des pièces neuves garanties, 8 magasins et un site transactionnel. Pièceséconomique.com.
C'est pas un secret. Chez Leclerc Communication, on aime le monde. Ce mois-ci, on est comblé. Pas une, ni deux,
mais trois nouvelles personnes se joignent à l'équipe.
L'audacieux Laurence Bayette occupera le poste de designer graphique au sein de notre équipe marketing. La créative Gabrielle Dionne sera notre nouvelle chargée de projet Créativité Média. Et l'expérimentée Joannie Leclerc,
non, c'est pas fait du boss,
a joint la famille en tant que technicienne comptable. Bienvenue chez nous et bon succès à vous trois.
Ici, une radio parlée voulait informer plutôt que désinformer. Ici, une radio parlée voulait divertir plutôt que de chialer. Ici, une radio parlée voulait rassembler plutôt que diviser. Ici, une radio parlée voulait aussi jouer le meilleur rock.
Ben là, ça serait plus une radio parlée.
Ben oui, mais avec du rock.
Ben là, ça serait la radio parfaite.
Ben, c'est ça. Boulevard 102.1, la radio parlée qui joue aussi du rock. Yeah!
Boulevard 102.1.
C'est l'heure d'aller coucher les enfants.
Coucher les enfants.
Le bonhomme débarque avec sa musique du diable.
This is the Prince of Darkness.
Voici le bonhomme 7 heures, Matt Marcotte.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7! Les 7 plus grosses tunes de la semaine à 7 heures. Et oui, le bonhomme 7 heures. Mon nom est Mathieu Marcotte. Très content de pouvoir vous accompagner avec de la bonne musique rock'n'roll. Ben, j'ai manqué mon roulement de air. Je suis déçu. Mon passé d'Outaouais qui s'efface tranquillement. Papa Roach. OK, j'étais capable. Papa Roach sera notre premier band. OK, j'arrête. Pour vrai, je me gosse moi-même. Premier band qu'on va vous jouer ce soir, c'est évidemment les 7 chansons qui font le plus réagir présentement sur le BLVD.fm. D'ailleurs, BLVD.fm, l'application Boulevard aussi disponible, App Store et Google Play. Question de nous écouter en tout temps. Votez pour les chansons que vous aimez avec des pouces en l'air sur celles que vous préférez. Et Cut the Line, ça, je peux vous dire... Ça fait la cote, justement.
Le 7 de 7, nos 7 plus grosses tounes de l'antenne. Numéro 7.
Are you tangled up inside? Is it something that you hide? If you listen to the
you want to say?
de 7.
Boulevard 102.1.
Numéro 6.
Les 7 meilleures chansons selon vos votes au BLVD.fm. Numéro 5.
Still again.
7 de 7, les chansons les plus performantes de la semaine. Numéro 4, le bonhomme 7 heures. Le bonhomme 7 heures. Voici Matt Marcotte.
Mike Shinoda de Linkin Park qui, en solo, nous offre In My Head. En fait, c'est une collaboration, évidemment, vous avez entendu. Le partage de voix masculine et féminine sur cette chanson qui est en position numéro 5. Également, en position numéro 6, on avait The Smashing Pumpkins avec Spellbinding. Quatrième position cette semaine. Une formation. Ils sont beaucoup dans ce band-là. Regardant la photo, je pensais qu'il était à 5 finalement. Sont une gang de Revivalists, originaire de la Nouvelle-Orléans. Revivalists, et c'est une formation qui va dans plusieurs directions. Officiellement, là, je les compte, sont 7 dans le band. Va dans plusieurs directions, mais avec Kid, je trouve que ça fit ici à Boulevard. Il y a un petit côté folk accrocheur, mais côté rassembleur également sur cette chanson-là. Position numéro 4 cette semaine. She said, hey, kid, just sing the songs and wake the dead. Then you keep them ringing in your head. Yeah, you gotta get it off your chest. Don't worry about the mess. I must confess, I took a hit. I'm in the back of this with all the chatter. Where's the truth? I find it hard to listen. Trumpet singing.